Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus. Te connais. Il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur.
Bien-aimés en Christ, recevez mes salutations fraternelles et bienvenue à l'heure de l'émission Études sur Cantique. Aujourd'hui, Dieu, tu es ma force, est le chant que nous allons étudier à l'heure de cette émission pendant les 60 minutes que nous avons devant nous. Alors, nous allons commencer par écouter cette chanson qui nous est interprétée par le groupe Louange Vivant. Je vous laisse écouter la chanson.
Yeah.
Dieu, tu es ma force, qu'on peut intituler mon ancre et ma voile. C'est un chant qui est composé de 3 couplets et d'un refrain. Oui, vous le savez très bien que à chaque fois quand nous venons dans cette émission, nous sommes toujours avec l'hôte Laurent pour ensemble essayer de décrypter le message ou les messages qui sont derrière chaque couplet, derrière chaque vers, je dis, mais derrière chaque vers. Et nous sommes encore avec l'hôte Laurent dans ce studio. Avant cela, nous allons d'abord le saluer, avant de lui permettre de pouvoir nous livrer les paroles de cette chanson. L'hôte Laurent, bonjour.
Oui, bonjour Olivier.
Alors, on va ensemble aller à la découverte des paroles. D'accord. De la chanson « Dieu, tu es ma force ». Je crois qu'il y a un puissant message qui est caché derrière cette chanson. Mais avant, découvrons les paroles avec toi.
Très bien, je vous donne lecture du premier couplet. « Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. » Deuxième couplet. « Tu étends mes ailes pour toucher les cieux. » Protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Troisième couplet. Ta miséricorde coule de la croix. Ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi. Sans fin, je te louerai. Le refrain. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon ancre, sois ma voile.
Très bien. L'hôte Laurent, as-tu des informations sur l'auteur de cette chanson? Nous l'avons dit que c'est Louange Vivante qui interprète la chanson, c'est vrai. Mais qui est l'auteur des paroles de ce chant?
Bien, la chanson est l'œuvre de David Duran, un Américain, mais en même temps un globe-trotter qui est passionné de voyage, qui a sillonné le monde. Et un missionnaire également. Il parle couramment plusieurs langues, donc c'est un polyglotte. Mm-hmm. Il a notamment travaillé comme missionnaire en Europe pendant une douzaine d'années. C'est un excellent chanteur qui a commencé sa carrière comme choriste avec Amy Grant et Michael Smith et beaucoup d'autres artistes. Il a composé de nombreux chants, de louanges que l'on peut retrouver dans les recueils « J'aime l'Éternel » et qui sont chantés dans les églises de la francophonie. Il a participé à la production de nombreux CD de Jeunesse en Mission. Il a collaboré avec François et Christine Raymond. Et il a également dirigé sa propre bande, et produit d'autres albums en solo en tant que chanteur et interprète. Il est marié, père de 3 enfants, 3 grands-enfants et également grand-père. Il travaille maintenant comme enseignant, consultant et conseiller. Il est passionné de culture et d'histoire et il vit à Nashville, aux États-Unis. Bon, lui-même dira, depuis mon enfance, où je faisais des allers-retours en Australie, où j'ai vécu pendant 5 ans avec ma famille, jusqu'à mes 12 ans de vie en Europe, en passant par mes nombreux voyages sur les 5 continents, je suis fasciné par le patchwork humain de notre planète, la diversité de sur la planète. En tant que passionné de langue, d'histoire et de musique, je connais bien les différents éléments qui composent la culture, la géographie, l'art, l'histoire, la politique, la religion, la langue et bien d'autres encore. J'ai appris et enseigné plusieurs langues au fil des années. Je considère l'apprentissage des langues étrangères comme un élément d'un ensemble plus vaste. Voilà donc celui qui est l'auteur de cette chanson.
Et il a beaucoup voyagé.
Ah, bien sûr, oui.
Ok, c'est très bien. Il est polyglotte, ça, c'est très bien également. Vous le savez très bien, auditeurs de cette émission, nous jouons la chanson, nous avons lu les paroles, mais dès à présent, on va passer aux commentaires et nous allons aller étape par étape. On va commencer par le premier couplet, ensuite le second, ensuite le refrain, excusez-moi, et après la deuxième strophe et la dernière strophe qui est la troisième strophe. On va commencer l'autre Laurent avec le premier couplet, mais avant d'en arriver, on écoute la chanson juste jusqu'au premier couplet. On y va. Dieu, tu es ma force. Le premier couplet, nous venons de l'écouter, je relis les paroles à notre niveau ici. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas, ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Le compositeur entame le chant en nous faisant savoir qui Dieu est pour lui. Il dit, il est sa force, sa consolation, une lampe devant ses pas. Comment, l'autre Laurent, doit-on comprendre cette reconnaissance de la part de l'auteur? Pourquoi il dit que Dieu est sa force, sa consolation et une lampe devant ses pas, Comment comprendre cela?
Bon, là, il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire que quoi? Dieu nous a créés dépendants de lui. Ça, c'est le programme de Dieu. En créant Adam, Adam devait dépendre de lui. D'accord?
Oui.
Et sans Dieu, Adam ne pouvait rien faire. Alors, la création dès le début. Après la chute, quand Christ est venu et a introduit la nouvelle création, ce critère est le même. Nous dépendons de Christ. Alors, puisque la Bible nous dit que en Dieu nous avons la vie, l'être et le mouvement. Donc, quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la gloire, la présence. Et donc, ils étaient devenus des êtres fragiles, des êtres désorientés, faibles, ne pouvant rien par eux-mêmes. D'accord? C'est pour cela que quand vous lisez les Écritures, Dieu, à un moment donné, a dû dire aux enfants d'Israël, « Vous saurez ce que c'est que d'être privés de ma présence. » D'accord? Dans le désert, quand ils avaient péché contre lui. Et quand le Seigneur est venu sur terre, sa vie même est l'illustration parfaite de sa dépendance du Père. Tout ce qu'il est venu faire ici, c'est un modèle qu'il nous a laissé, c'est ce que Adam aurait dû faire, et il ne nous aurait pas plongé dans ce dans quoi on est jusqu'à maintenant. D'accord? Il a voulu avoir son indépendance, et c'était la catastrophe et le chaos. Jean chapitre 5, Jésus va dire, dans le verset 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. D'accord? Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. D'accord? Donc, si le Père ne fait rien, le Fils ne fait rien. Si le Père ne dit rien, le Fils ne dit rien. Ça, si vous voulez étudier encore plus en profondeur, c'est cet état d'esprit. Quand vous voyez les prophètes de l'Ancien Testament, c'était comme cela. Les véritables prophètes ne prenaient pas sur eux, n'osaient pas dire ainsi par l'Éternel si l'Éternel n'a pas parlé. D'accord? Donc là, ça, c'est la vie de celui qui marche par l'esprit. À Gethsémané, quand Jésus priait, là, quand vous lisez le texte, vous essayez de vous plonger dans le contexte, vous voyez une prière de, c'est comme, je sais pas comment l'expliquer, une dépendance totale dans la manière dont il s'y était pris. Et le Hébreux chapitre 5 nous a rapporté ce fait là sous l'angle de verset 7, c'est lui qui dans les jours de sa chair ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Tu vois? Donc, c'est ça la vie du Seigneur. Et nous aussi, nous devrions normalement tirer profit. Quand on commence à marcher avec Dieu, si on est sincère, l'une des remarques que l'on fait, c'est que sans Dieu, on ne peut rien. Sans lui là, on ne peut rien, à moins que la personne soit charnelle ou elle prend ses décisions par elle-même. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En d'autres termes, sans moi, vous êtes sans force. Vous êtes désorienté. Vous ne maîtrisez rien du tout. D'accord? Comme un enfant qui vient au monde, c'est un être frêle, fragile, qui ne peut rien, à moins que maman soit là, à moins que papa soit là. Donc, c'est comme cela que nous sommes. Et Jésus a raison quand il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, donc, quand tu as posé la question concernant Dieu, tu es ma force, oui. Ça veut dire l'auteur en d'autres termes en train de dire, sans toi, je ne suis rien, je suis faible. D'accord? Oui. Et quand il dit, tu es ma consolation, on console qui? On console celui qui est éprouvé, celui qui est en peine. Si vous êtes heureux, vous êtes joyeux à la maison, ou bien je ne sais dans quelles circonstances, et puis quelqu'un vient pour vous consoler. Ce sera une contradiction dans les termes. Ouais, la personne est heureuse, vous voulez la consoler. Ouais. Alors, quand il parle de lampe, devant mes pas, ça, il parle de la direction. Ouais. C'est-à-dire que, et c'est à raison qu'il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Pourquoi? Parce que l'aboutissement, c'est auprès du Père. Si vous passez par sa mère, vous allez vous perdre. Si vous passez par les fondateurs de religion, vous allez vous perdre. Si vous passez par une créature, parce que tous ces gens-là, sa mère, ses tantes, ses oncles, tout ce monde-là que certaines religions exaltent, c'est des êtres humains, c'est des créatures. C'est des créatures de Jésus. Donc, si vous passez par une créature, vous allez vous perdre. Et là, ce sera pour l'éternité. Alors, donc, quand il dit une lampe devant mes pas, je me souviens, verset dans un psaume, où il est clairement dit que le Seigneur dirige ceux qui sont à lui. Paul aussi a fait l'expérience. Quand il s'est rendu compte qu'en réalité, le chrétien, c'est celui-là qui a choisi de dépendre de Dieu. C'est pour cela qu'il est question de renouvellement de l'intelligence. D'apprendre à pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire dans cette situation. D'accord? Par exemple, pour la journée, vous sortez comme ça, vous devez vous attendre à être dirigé par Dieu. Vous avez l'habitude de prendre ce chemin-là tout le temps, normalement. Et puis d'un seul coup, si vous avez appris à écouter sa voix, d'un seul coup, il injecte la pensée et dit, va à gauche. Tu ne sais pas pourquoi tu dois aller à gauche, mais quand tu auras choisi d'aller à gauche, dans certaines circonstances, à peine es-tu allé à gauche que tu vas voir pourquoi il t'a dit d'aller à gauche. Là, ça, c'est une question d'expérience. Si vous avez appris à l'écouter, il ne sert à rien de faire preuve de stoïcisme. C'est-à-dire que vous êtes devant Dieu, un être qui n'est touché par rien, rien ne vous émeut, vous êtes là, vous vous présentez devant Dieu, gaillardement. Non. Vous êtes un être, je suis un être frêle, fragile. Et sans Jésus, je ne peux rien. Vous aussi, vous ne pouvez rien. Donc, reconnaître sa faiblesse devant Dieu, reconnaître sa dépendance totale de Dieu, c'est accepter prendre notre place. La place d'un enfant de Dieu. Frères et sœurs, quand Ézéchiel a eu cette vision, il a vu les ossements desséchés, tout ça là. Qu'est-ce qu'il pouvait faire?
Rien.
Dieu est allé jusqu'à lui demander, est-ce que ces ossements-là peuvent revenir à la vie? Et il a été sage pour dire, ah là, Dieu, c'est toi qui sais. Et il n'a rien dit, jusqu'à ce que Dieu lui dise, prophétise. Vous voyez un peu? C'est dangereux de ce qu'aujourd'hui les gens se permettent de dire des choses au nom de Dieu, alors que Dieu ne leur a rien dit. Ils utilisent un peu de psychologie là pour manipuler les gens et dire ce que Dieu n'a pas dit. Frère, prêche la parole. Ne fais pas croire aux gens que Dieu t'a dit ce qu'il ne t'a pas dit. Parce que ça là, ce sera du mensonge et Dieu ne nous a pas envoyé mentir en son nom.
Très bien. L'autre, Laurent, dans cette même strophe, il est dit vers la fin, vers la fin, je ne sais pas si c'est ces deux vers que je vais lire, viennent reconforter le fait qu'il faut dépendre de Dieu. Il est dit, ta voix a triomphé de l'ouragan, remporter le combat. Ça vient dans la consolidation de ce que tu viens de dire.
Bien sûr.
Ça, c'est dans la même
bien sûr, bien sûr. Bien. Pourquoi? Okay. Parce que l'ouragan, ouais, c'est quoi? C'est une tempête de très forte intensité.
Oui.
C'est ça l'ouragan. Mmh. Et qui est caractérisé par des vents violents, tourbillonnants, et qui souffle souvent à plus de 120 km l'heure. Mmh. D'accord? On l'appelle dans certaines circonstances un typhon, une cyclone ou bien une tornade. D'accord. Maintenant, quand vous lisez bien la Bible, vous savez qu'il y a eu une situation quand on lisait Matthieu, Marc et les autres, là, vous allez voir, où le Seigneur était avec les disciples et d'un seul coup, là Matthieu chapitre 8, et voici, se leva verset 24, sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ça, c'est des pécheurs. Et là, dans cette circonstance, ils ont bien fait d'aller vers lui. Parce qu'ils se sont rendus compte que sans Jésus, ils étaient sans force. Frère, sœur, il y a des moments dans la vie où cette leçon-là, nous la prenons avec des larmes. Lorsque nous voulons nous prendre en charge nous-mêmes, on veut faire les choses par nous-mêmes. On analyse, on tire des conclusions. Vous allez rentrer dans le mur et après vous retournerez vers Dieu et vous direz, mon fils, je suis en toi. J'ai envoyé mon esprit résider en toi pour te diriger. Mais tu as voulu prendre les devants. Je t'ai laissé faire pour que tu apprennes que tu dois dépendre de moi. Donc quand Jésus s'est réveillé, il dit, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et l'écriture dit, il menace les vents, et il menace la mer, et il y a eu un grand calme. Pourquoi? Parce que Jésus avait entendu à ses disciples, allons à l'autre bord. D'accord? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit? C'est à cela qu'il faut s'en tenir. Parce que, tu vois, quand le vent de l'esprit te pousse dans une direction donnée, les vents contraires qui vont souffler là serviront à glorifier Dieu parce qu'il ne peut pas empêcher que tu arrives à destination. Si vous comprenez ça là, vous allez avancer. Ce n'est pas parce que Dieu vous a révélé sa volonté et qu'il y a des défis que vous allez abandonner pour dire, comme il y a des défis, donc ça ne vient pas de Dieu. Non, les tempêtes de la vie nous invitent à faire appel au Seigneur. Parfois, nous tirons des conclusions, hein, et la supposée force de notre caractère ou de notre ingéniosité pour nous sortir d'affaires perturbe même l'accomplissement du plan de Dieu. C'est-à-dire, c'est en ce moment que nous voulons aider Dieu. Sarah avait voulu aider Dieu, n'est-ce pas?
Oui.
En disant, Abraham, bon, entre-temps, là, prends celle-là et on verra bien. Non! Notre caractère, tu sais, il y a des gens qui sont trop forts pour Dieu et il est obligé de les briser, de les rendre faibles. C'est ce qu'il a fait à Jacob. Ce monsieur-là, il était rusé. Et il comptait sur lui-même. C'est pour cela que Dieu l'a brisé. Saul de Tarse était un homme très très fort par lui-même, religieusement. Et Dieu a dû le briser. Donc, le brisement fait partie de la vie du chrétien. Si votre pasteur ne vous l'a jamais dit, j'ose croire que quand certains événements vont arriver, vous ne saurez pas que c'est en fait le processus de brisement que Dieu a enclenché dans votre vie. Vous allez penser que c'est les sorciers, c'est pas les sorciers. Il y a une œuvre que l'Esprit de Dieu fait en nous et une œuvre que l'Esprit de Dieu fait au travers de nous. Mais celle qui est en nous doit commencer d'abord. Sinon, vous ne pourrez pas être utilisé par Dieu pour déployer la puissance de Dieu. Tout ce que Dieu utilise là, il les brise d'abord. Toutes celles que Dieu utilise, il les brise d'abord. Pourquoi en les utilisant, le moi ne s'attribue pas la gloire qui revient à Dieu? Et cela est très très important pour nous. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de T.L. Osborne qui est parti prêcher, il a connu l'échec. Et il a eu au moins quand même l'humilité de revenir vers Dieu pour dire, mais Dieu, mais je comprends pas. Et Dieu lui a dit, mon fils, je t'ai appelé, mais je ne t'ai pas envoyé. Frères et sœurs, combien de catastrophes, combien de douleurs inutiles, combien de peines, d'autoflagellation nous aurons pu éviter si on prenait sur nous de consulter la parole de Dieu, premièrement, ensuite de consulter l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit et la parole vont de pair. C'est pour cela qu'il dit, Ésaïe 30, verset 1, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. » C'est la tendance qu'on a aujourd'hui. Vous voulez faire quelque chose qui engage votre vie, vous prenez vos décisions, quand vous avez fini de prendre vos décisions, vous demandez à Dieu de bénir vos décisions charnelles. Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Et qui font des alliances sans ma volonté. La volonté là, elle est écrite, elle est dans la parole. Vous refusez et vous faites des alliances et quand vous avez des problèmes maintenant, vous commencez pas à dire comment Dieu pourrait faire ça, comment Dieu. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas prendre des responsabilités des actes que nous avons posés? Et dit pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se refuser sous la protection de Pharaon. Aujourd'hui là, vous voulez avancer dans la vie. Le premier réflexe qu'on a, est-ce que tu as un tonton? Est-ce que tu as une tata? Est-ce que tu as des connexions? Et le Saint-Esprit est là en nous, il nous regarde faire. Et maintenant, nous pensons que nous sommes plus rusés, plus sages que Dieu. Et on fait ces choses-là, vous établissez des connexions, et pas fini, vous vous trouvez même dans les méandres même des choses que vous ne pourrez même pas maîtriser. Pourquoi? Parce que le diable ne donne rien gratuitement. Le tonton ou la tata là, vous connaissez la source des connexions qu'il a? Vous savez sur quoi, contre quoi le tonton et la tata s'est appuyé? Vous pensez que les gens veulent évoluer dans la vie avec Dieu? Plein de gens évoluent dans la vie et vous entendez parler de, mais ils ont vendu leur âme aux puissants des ténèbres. Si c'est tonton et tata là, quand tonton va exiger de toi la contrepartie de ce que tu as fait, c'est en ce moment que tu te rendras compte que tu as été insensé en descendant en Égypte sans consulter Dieu. Isaac voulait descendre, Dieu lui dit, tu n'iras pas en Égypte. Vous voyez, frère, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et Dieu ne vous dirige pas. C'est vraiment étrange. C'est vraiment bizarre.
Ok. Très bien. On écoute encore Dieu qui est la force. On va... Et là, on va aller au niveau de
Il est important de comprendre les différentes parties de la question. Bien sûr, oui.
Au niveau du refrain, le compositeur reconnaît que Dieu lui offre chaque jour son infaillible amour. Et il demande, c'est ce qui m'étonne, c'est ce qui me surprend, il demande une chose à Dieu, c'est d'être son ancre et sa voile.
Oui.
Son ancre et sa voile.
Oui.
Quel est le sens de cette demande?
D'accord. Là, on commence. Première des choses, il ne faut jamais douter de l'amour de Dieu. Quoi qu'il arrive dans la vie, il ne faut jamais douter de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous ne souffre d'aucune fluctuation.
C'est infaillible.
Non. D'accord. Aucune fluctuation. Okay. Il nous aime. On ne peut pas, en termes humains, expliquer.
L'autre Laurent, s'il te plaît.
L'amour de Dieu.
S'il te plaît. Quand on traverse des situations difficiles, l'amour de Dieu demeure tel quel?
Oui, bien sûr.
Je veux comprendre.
Hein. Oui, bien sûr.
Ça ne varie pas.
Non.
Ça ne vacille pas.
Non. Non. Tu vois, un parent, quand son enfant souffre, même si ce parent, de par le passé, n'a pas fait preuve de tendresse et autres, mais quand tu es véritablement parent, quand les enfants souffrent, le premier réflexe qu'un parent a, c'est que je préfère que ça m'arrive à moi-même.
Ok.
Tu vois, je préfère que ça m'arrive à moi-même plutôt qu'à mon enfant, parce que en tant qu'adulte, je peux gérer.
Ouais.
On parle des émois d'un parent, des mères, des mamans, tout ça là. Oui, c'est comme ça. Et Dieu, ça dépasse ça. Son amour ne souffre d'aucune fluctuation. Maintenant, quand il parle d'encre, il parle de voile. L'encre, bon, vous voyez sous l'angle de frein et le voile sous l'angle de mouvement. Je vais expliquer. Dans Psaume 32, le verset 8, il a dit quoi? Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ça, c'est sous l'ancienne alliance, hein?
Oui.
Sous l'ancienne alliance. Oui. Dans le verset 9, maintenant, il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort, et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ici, il y a une comparaison. Dieu a créé l'homme pour pouvoir le diriger. Mais il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet. Un cheval est reconnu par quoi? La fougue. Et le mulet ou l'âne est reconnu par l'entêtement. C'est-à-dire que c'est des animaux, la Bible dit sans intelligence, ils sont dirigés par l'instinct. Il peut y arriver, si vous n'avez jamais fait l'équitation, vous ne comprendrez pas. Lorsque vous montez à cheval, et que vous avez envie d'aller à gauche, si le cheval choisit instinctivement d'aller à droite, tout ce que vous allez faire, il va se cabrer. Et si vous ne faites pas attention, il va vous faire tomber. L'âne là, hein, quand l'âne décide de ne pas bouger, vous pouvez le frapper, il n'ira nulle part. Ça, c'est des animaux, ça. Dieu dit, ce n'est pas de cette façon qu'il faut vivre. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Si tu te soumets. Si nous nous soumettons, il nous montrera la voie. Tu vois, vous êtes enfant de Dieu parce que vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Et vous ne pouvez pas dire que l'Esprit de Dieu ne vous dirige pas. Vous savez, quand par exemple, on est dans une situation où on cherche la direction de Dieu, ce qui arrive souvent, c'est que par manque de patience, nous supposons que le Seigneur a parlé ou l'a agi d'une certaine manière. Et nous prenons des décisions. C'est ce qui arrive très souvent. Et cela nous amène à des catastrophes dans notre vie. D'accord? Vous avez demandé à Dieu, cette situation-là, je comprends pas, explique-moi. Il faut, aujourd'hui, ces choses ne se disent pas. On n'enseigne plus aux chrétiens à pratiquer le calme. Laissez Dieu te parler, te guider. Waiting on God, comme les Anglais le disent. D'accord? Vous attendre à Dieu. Je présente cette situation à Dieu. Je veux avoir une réponse de sa part. Soit il me parle directement par l'esprit, ou il me parle par sa parole. Les chrétiens ne savent plus ça aujourd'hui. Donc, un, deux. Là, on tire des conclusions. Deux, trois mouvements. On dit, ok, de par la coloration des nuages, allons-y. C'est le cas de ce qui est arrivé à Paul. Lui, il a su par l'esprit qu'il va y avoir un danger devant. On dit, non. Appuyons-nous sur l'expérience, l'expertise du capitaine du navire. Allons-y, nous avons le vent en poupe, on y va. Et à la fin, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je perçois par l'esprit que ce navire-là ne sera pas entier à la fin de ce voyage. On va échouer sur une île. Ce qu'il a dit s'est accompli à la lettre. Tu vois, donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il est tout à fait normal pour nous d'apprendre à dépendre de Dieu. Ésaïe 30, verset 15 dit, ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. D'accord? Si vous apprenez à marcher au rythme de Dieu, vous ne serez pas agité. Vous ne serez pas agité. Quand les circonstances adverses se présentent là, vous ne serez pas agité parce que vous savez que, on en a déjà parlé en famille, c'est-à-dire que vous avez parlé avec le Père Céleste, vous lui avez présenté la situation. Maintenant, quand on commence par s'agiter là, ça c'est le signe de quoi? De l'incrédulité. C'est-à-dire qu'après avoir prié, nous prenons des décisions qui contredisent la prière, donc nous annulons par notre incrédulité la prière que nous avons faite. Il y a un psaume là, psaume 37. Je vais vous lire la portion anglaise pour que vous compreniez. The steps of a good man are ordered by the Lord. Et dans une vieille version, il est dit, les pas de l'homme qu'il a béni sont conduits par l'Éternel. Les pas. D'accord? Dieu oriente nos pas. Et George Muller est allé jusqu'à dire, en anglais on dit the steps. Et il lui a dit, even the stops. J'explique. Les pas là, ça veut dire le mouvement. Et les pauses même que Dieu applique à nos vies. Il y a des moments où nous bougeons. Il y a des moments où nous devons rester sur place. Si nous comprenons cela, là, on comprend la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous sommes en transit dans ce monde en tant que pèlerins. Il y aura des temps de mouvement. Il y aura des temps de pause. Pourquoi? Il y a des moments où vous devez jeter l'ancre. Tu m'as parlé de l'ancre. Quand on prend le champ lexical maritime de la navigation, vous jetez l'ancre pour stabiliser, immobiliser le bateau. D'accord? Il y a des moments où nous jetons l'ancre. On le dit souvent, je vais jeter l'ancre. Et il y a des moments où il faut lever l'ancre. Il y a des moments où il faut larguer les amarres. Il y a des moments où il faut mettre les voiles, prendre le large, bref, se mettre en mouvement. Si dans notre vie chrétienne, nous ne savons pas quand Dieu nous dit, reste sur place. Si on ne sait pas ça. Et qu'on est, on veut être en mouvement tout le temps là. On va se fatiguer pour rien du tout. C'est pour cela que vous allez voir que dans les Écritures, il y a un temps où Jésus a dit à ses disciples, allons à l'écart. Il y a un temps dans la vie du chrétien où vous devez marquer une pause. Vous arrêtez. Serviteur de Dieu, si vous n'apprenez pas à marquer une pause, vous allez faire de la dépression. C'est ce qui est arrivé à Élie. Il y a un temps où il devait marquer une pause. Il connaissait ça, la première phase de sa vie là. Aller auprès du torrent, il a réussi dans cette première phase là. Maintenant, quand le miracle s'est produit, il avait besoin d'une pause. Il avait besoin de se ressourcer. Non? Dans la ferveur, tout ça là, bon, il est allé ça et là. Mais après, il a commencé à faire une dépression. C'est là où il a voulu mourir. Vous voyez un peu? Donc, dans notre vie en tant que chrétien, si nous n'apprenons pas, premièrement, savoir comment Dieu parle à nous, personnellement, comment il nous parle, comment il te parle. D'accord? Savoir que, pour le moment, là, Dieu veut, reste tranquille, ne fais rien. Dis non, mais Seigneur, je dois faire, ne fais rien. Vous voyez l'image de ces deux dames-là? Il y a une qui s'assoit, qui écoute le Seigneur, l'autre est agitée. Non, il faut faire la cuisine, les casseroles sont en mouvement, il faut... Non, il y a des temps où il faut s'arrêter, marquer une pause. Apprendre à écouter la voix de celui qui réside en toi. Mon frère, ma sœur, si tu n'arrives pas à faire ça là, et que tu crois que tu peux juste piocher un verset des Écritures et intellectuellement t'arranger, penser, pas prier, il y aura des moments où Dieu te dit, hey, ne dis rien. Si tu ne peux pas écouter cette voix qui te dit silence, tu ne peux pas là. Oh, tu vas t'agiter et tu seras étonné de ce que la situation n'est pas débloquée parce que ton agitation en ce moment-là, en réalité, c'est l'émanation de l'incrédulité. Tu veux faire quelque chose pour aider Dieu. Il t'a demandé ton aide. Il t'a pas demandé ton aide. Il maîtrise la situation. N'oublie pas, tout au long de cette émission, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Très bien. Vous venez de nous capter, vous suivez bien l'émission Études sur Cantique, et nous sommes en train d'étudier le chant « Dieu, tu es ma force » ou bien encore « Mon ancre et ma voile ». Alors, ouais. On va continuer par écouter la chanson. Là, on va aller à l'étape du couplet 2, du deuxième couplet, et on fera le commentaire de cette partie de la chanson également.
Tu es ma force, ma consolation, une grande.
Dans la deuxième strophe, voilà ce que le David Duran est en train de dire. Il dit que Dieu étend ses ailes, le protège, et il dit que sa grâce, la grâce de Dieu l'appelle à lever les yeux et à suivre son chemin.
Oui.
Comment doit-on comprendre ces propos?
Alors, quand il parle des ailes étendues, de tu étends mes ailes, là, on est dans une figure de style où Dieu est perçu sous l'angle de l'aigle qui aide l'aiglon. L'aiglon, c'est le petit de l'aigle.
Oui,
d'accord?
Exactement.
Étendre ses ailes. Parce que pour que le jeune aigle, l'aiglon, apprenne à voler, au début, on parle de voleté. C'est-à-dire que secoue dans tous les sens les ailes. Donc, le parent le prend, va un peu à hauteur et le lâche.
Okay.
D'accord? Il lâche l'aiglon qui va commencer par...
Il va développer ses ailes.
Voilà, et après, il va prendre un peu d'assurance. Mmh. Mais avant qu'il ne tombe, il le reprend.
Il le reprend.
Et à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il arrive maintenant à planer. Et ici, l'auteur est en train de dire, tu étends mes ailes pour toucher les cieux. Ça veut dire d'aller encore plus haut. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas du surplace. Vous savez, vous connaissez les vélos de chambre, non? Vous êtes dessus, c'est un vélo, mais la différence, c'est que vous n'allez nulle part. Vous êtes dessus, vous faites des efforts, vous n'allez nulle part. Quand votre vie chrétienne ressemble à du vélo de chambre, là, où vous faites les efforts, mais vous faites du surplace, frère, apprenez que vous devez étendre vos limites. Qu'il faut sortir de la zone de confort. Et c'est par la foi qu'on sort de la zone de confort. Le Seigneur nous demandera toujours de faire un pas de plus. Toujours un pas de plus. Nous tous, en tant que parents, là, nous avons appris à nos enfants à faire les premiers pas, n'est-ce pas? C'est la même chose que Dieu aussi fait. Il nous fait faire de petits pas. Et il nous encourage à faire de petits pas. Donc là, si vous voulez vous résumer votre vie chrétienne à une analyse intellectuelle d'une certaine situation donnée, des conclusions que vous tirez, parce qu'en bon cartésien, vous commencez par A, il faut aboutir à B, vous n'allez rien comprendre à la vie chrétienne. Hein. Alors en ce moment, vous allez tomber dans l'athéisme, où vous allez penser que la vie chrétienne se résume à un agrégat de leçons de morale. Frère, quand tu lis la Bible, là, souvent qu'est-ce que tu fais? Tu lis un verset, tu tires une conclusion et tu découles de ce verset-là une leçon de morale, n'est-ce pas? Si il s'agit que de la moralité, il y a des religions dans lesquelles, vous prenez les moines bouddhistes là, leur niveau de moralité dépasse même celui de nos pasteurs ou de ceux que nous connaissons. Hein. Frère, la vie chrétienne dépasse la morale, c'est la vie de l'esprit. Et si on n'a pas compris ça, donc ici quand il dit par exemple, tu étends mes ailes pour toucher les cieux, c'est dit qu'il faut aller plus haut que possible, le plus loin que possible dans la vie du chrétien. Nous ne devons pas nous contenter de rester à la périphérie. Vous avez fait combien d'années en Christ et vous avez toujours besoin qu'on prie pour vous? Dans l'épître aux Hébreux là, l'auteur Paul est allé jusqu'à dire... Vous devriez normalement être des enseignants. Mais vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les rudiments de la foi. Il n'était pas en train de les insulter, mais il leur a dit, mais il faut progresser, frère. Il faut progresser. Comment pouvez-vous expliquer un pécheur qui ne maîtrisait même pas la Torah? Jésus l'a pris. Après 3 ans, là, Jésus a tellement travaillé la vie de cet homme que plus tard, quand vous prenez la Bible, le dernier livre de la Bible, ce monsieur, avec son niveau intellectuel réduit, il a décrit l'Apocalypse, même les meilleurs des théologiens sont confus quand ils veulent utiliser leur cerveau pour expliquer l'Apocalypse. Les meilleurs des théologiens, ils sont confus. Comment vous pouvez expliquer ça? Il dit, au jour du Seigneur, j'étais en esprit. Comment il a appris à être en esprit? Frère, vous êtes pentecôtiste. Vous êtes dans le mouvement de Pentecôte. Vous savez parler en langue et prophétiser, mais vous ne savez pas comment on entre en esprit. Vous voyez un peu la différence, non?
C'est sérieux, hein?
Ce monsieur et les autres apôtres là ont pris un certain Étienne. Ils les ont formés au point que Étienne était devant le Sanhédrin, mais il a su comment entrer en esprit. Frère, vous savez faire ça? Frère en Christ, sœur en Christ, vous savez comment entrer en esprit? Comment à un moment donné de la prière, vous savez que maintenant là, ce n'est plus la chair. Et vous commencez par parler à Dieu du niveau de l'esprit. Notre christianisme, s'il faut être sincère, on doit avoir honte parce que on n'est pas au niveau de ces gens-là, à une époque primitive.
Très bien.
Donc, vous voyez ici, donc là, il dit, protégé par ta main, parce que la protection, là, c'est une garantie qu'on a en Christ. Quand le Seigneur nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous pensez que c'est juste une phrase, quoi, il a fait une sorte de déclaration mue par l'émotion? Non, non. Cette parole-là, elle vaut son pesant d'or pour un enfant de Dieu. Donc, on ne peut pas comprendre comment un frère, oui frère, mais pourquoi tu quittes ton foyer? Non, 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 ah, tu sais, les sorciers sont dans le quartier. Frère, pourquoi vous déménagez? Non, 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 les mystiques sont dans le coin. Comment ça? Où ça? Sous quelle alliance? Sous quelle alliance? Même sous l'ancienne alliance, là, la Bible dit que les sorciers ne peuvent voir rien contre Israël. La femme de Naaman est allée jusqu'à dire à son mari, si ce monsieur, si Mardoché est un juif là, tu vas tomber. Tu vas tomber devant lui. Ça, c'est alliance fondée sur le sang d'un animal. Maintenant, on est sous la nouvelle alliance. Frère, des situations surviennent dans ta vie, tu ne peux pas prendre du recul, entrer en esprit pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, tu glanes des informations et Dieu te dit, ça là, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Attaque-le de ce côté. Depuis quand vous avez appris qu'on marche dans les arbres? Dieu dit à David, quand tu entendras le bruit des pas dans le mûrier, vous savez ce que ça veut dire? Dieu était en train de lui enseigner à marcher par l'esprit. En ce moment-là, tu peux attaquer. Frère, depuis que tu es né de nouveau là, combien d'années ça fait? Combien de décennies ça fait? As-tu une fois entendu l'esprit te dire, dans cette situation, voilà ce qu'il faut faire? Si tu n'es pas à ce niveau-là, faut pas faire du bruit. D'accord. La vie chrétienne ne se résume pas à juste prendre un verset et à faire des analyses grammaticales one-to-one-to rapidement et puis tu tires une conclusion. C'est pas ça. Si tu fais ça là, il y a des gens d'autres qui ont aussi un autre aperçu du christianisme là, qui mentent même parfois en disant que Jésus va venir en telle année et on sait que c'est de faux. Si eux aussi font des exercices comme ça. Mais dans ta vie en tant que chrétien, là, le Saint-Esprit qui habite en toi, lui ne parle pas.
Très bien.
L'Esprit qui est en toi, là, il n'agit pas.
C'est compris.
Alors, donc là, c'est, si on comprend ces choses-là, il a parlé de grâce qui m'appelle à lever les yeux sur le chemin.
Oui,
Jésus est le chemin, ça nous le savons. Mais c'est le chemin qu'il nous a laissé, c'est le chemin resserré. Quand avez-vous entendu la dernière fois un pasteur parler de Matthieu chapitre 7? Entrez par la porte étroite.
Oui.
Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Si vous entrez par la porte qui est large, vous allez aboutir au chemin spacieux. Mais il dit, mais étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Sur ce chemin-là, vous verrez de loin le calvaire se dresser à l'horizon. Et Christ vous dit, vous devez porter votre croix. Sur ce chemin, le chemin est tel que vous ne pouvez qu'être seul sur le chemin. Si quelqu'un vient là, il sera derrière vous. Ce n'est pas une histoire de côte à côte.
Donc, ce n'est pas une histoire où tu verras un passager revenant de la voie.
Si quelqu'un revient, ça veut dire que lui, il a démissionné, il va se retrouver sur
la voie spacieuse.
Voilà.
Très bien.
Donc, c'est le chemin auquel le Seigneur a appelé les disciples. Le chemin de renoncement à soi. Vous avez entendu prêcher sur ça, ça fait combien d'années? Renoncement à soi. Le port de la croix. Marcher avec Christ. Accepter les souffrances pour lui. On nous parle de ça aussi? Non. Pourquoi? Parce que la Bible a déjà dit que dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, nous avançons par la grâce de Dieu, chacun portant sa croix, en acceptant avec foi et confiance tout ce que le Seigneur juge mieux pour notre bonheur éternel. Donc, sur ce chemin-là, moi qui vous parle, Olivier qui parle de l'autre côté de la baie vitrée, là, nous avons chacun son lot de déconvenus à cause de ce que nous avons choisi de vivre comme des disciples. Nous sommes sur le chemin resserré. Et quand on est là, c'est pas un chemin sur lequel on rit, on fait preuve de légèreté. Non, chaque pas que nous posons nous rapproche de l'éternité. Et nous faisons du mal à l'ennemi. Et il cherche par tous les moyens aussi à nous faire du mal. Frère, si votre christianisme n'est pas sur le chemin resserré, vous vous êtes trompé de porte.
Très bien.
Une porte est large, il y a une qui est étroite. Jésus a dit, il y a peu qui les trouvent. Frère, sœur, j'espère que vous êtes sur le chemin resserré.
Nous allons écouter dès à présent le chant dans son entièreté. Et là, après, on va finir avec la strophe 3 et par le commentaire, on retrouve la chanson « Dieu, tu es ma force ». Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté, tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Voilà les paroles du dernier couplet. Et c'est ce que David Durham dit, la miséricorde divine coule de la croix, coule à la croix, le sang de Christ l'a racheté, et il dit, ce qui m'intéresse, ce qui retient mon attention, tout ce qu'il est vient de lui.
Alors, là, il faut comprendre, quand il dit de ta miséricorde coule de la croix est l'expression suprême de l'amour de Dieu, mais aussi de sa miséricorde. Quand on dit être miséricordieux, c'est quand notre cœur est touché par la misère d'autrui. Donc, le cœur de Jésus a été touché par notre misère, misère dans laquelle Adam et Ève nous ont plongés. Et par amour, il a accepté mourir, et il a vu le prix qu'il devait payer, et un prix unique dans son genre, un prix sans pareil. C'est le fait qu'il doit donner sa vie dans une situation la plus abjecte du châtiment de l'époque. La mort par humiliation. Et Jésus a accepté ça. Tu sais, quand tu lis par exemple Ésaïe 57, je vais lire le verset 7 où Dieu dit, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Parce que l'écriture dit, Dieu est en colère contre le pécheur chaque jour. Il dit, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. D'accord? Et c'est pour cela que la croix est intervenue. Et là, verset 18 dit, j'ai vu ses voies, je le guérirai. Je lui servirai de guide. Ça répond à ce dont la chanson avait parlé tantôt. Je le consolerai. Parce que quand Jésus était là, il était le consolateur de qui? Le consolateur des apôtres. De ceux qui étaient ses disciples immédiats. Il était leur consolateur. Et quand il partait, il savait que cette œuvre-là ne s'arrêtera pas aux confins de la Judée. Ça va aller au-delà de la Judée, dans la Samarie. Ça va aller au-delà même de la Palestine d'alors. Ça va atteindre le monde entier. Et il dit, un autre consolateur viendra. Pourquoi? L'écriture, ça au travers des écrits de Paul qu'on comprend que Jésus maintenant est devenu un esprit vivifiant. Donc, il peut être partout à la fois. Et donc, au travers du Saint-Esprit, il nous console. Donc, tu vois, donc quand il dit dans le texte, verset 18 d'Ésaïe 57, « Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui, je mettrai ma louange, la louange sur leurs lèvres. » C'est pour cela que dans le texte que tu viens de dire, « Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté, tout ce que je suis vient de toi, sans fin je le louerai. » Et là donc, nous comprenons que nous avons la rédemption par le sang de Christ. Et maintenant, l'apôtre Paul va nous dire, 1 Corinthiens 6, verset 20, « Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux en qui réside l'esprit de Christ, savent que tout leur être, le corps, l'âme et l'esprit, que tout cela appartient au Seigneur et à lui seul. Par conséquent, le Seigneur nous rend capables, lorsque nous prenons nos positions, sachant qui nous sommes, il nous rend capables d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Alors si nous le savons, lorsque Dieu se sert de nous pour faire quoi que ce soit, il n'y aura aucune raison d'être orgueilleux, d'attirer la gloire sur soi. Pourquoi? Parce qu'il a créé ces bonnes œuvres-là et les a mises à disposition pour que nous les pratiquions. Nous les pratiquons en tant que qui? Ceux qui sont de la nouvelle création. Alors l'auteur maintenant dit tout ce que je suis vient de toi. Mais là c'est conforme aux Écritures, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. Frères, sœurs, quoi que nous fassions aujourd'hui là, nous devons pouvoir laisser cette phrase résonner en nous. Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. À chaque fois, nous devons attribuer au Seigneur la gloire. Mais à nous, la grâce, parce qu'en Jésus, nous avons la vie, l'être et le mouvement. Et sans Jésus, nous ne sommes rien du tout. Et nous ne pouvons rien faire. D'accord. Et donc, tout ce que l'auteur a dit se résume à cela. Sa dépendance de l'Esprit de Dieu, tout en sachant que c'est par amour que Dieu fait en nous et au travers de nous ce qu'il est en train de faire. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette portion de la chanson et de la chanson dans son ensemble.
Merci l'autre Laurent. Merci également à vous qui nous avez suivis depuis vos demeures respectives. Vous êtes ici à Lomé ailleurs et partout ailleurs dans le monde entier. Nous en avons fini pour ce jour avec cette émission Études Quantiques. Dieu, tu es ma force était la chanson que nous avons étudiée à l'heure de cette émission. Alors on vous laisse avec la chanson. Et si le Seigneur tardait à revenir, on se retrouvera le dimanche prochain, même heure, pour un autre cantique à étudier. Bye bye.
Oh. Je fais tout ce que